Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Le pape François, toujours hospitalisé à la polyclinique Gemelli de Rome, a passé une nuit tranquille et s'est reposé. C'est ce qu'a écrit dans la matinée du dimanche 23 février la salle de presse du Saint-Siège. En raison de son état de santé, le pape a délégué Monseigneur Rino Fisichella, pro-préfet du dicastère pour l'évangélisation, pour présider la messe du jubilé des diacres de la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie qui a été lue par le prélat, l'évêque de Rome a invité les diacres au pardon, au service désintéressé et à la communion. Et comme la semaine dernière, François a partagé son exhortation qui précède habituellement la prière mariale de l'Angélus en invitant les fidèles à continuer de prier pour lui et pour la paix dans le monde. Nous y reviendrons dans l'actualité de l'Église avant de passer à la rétrospective des nouvelles de l'Église en Afrique. L'actualité sociale et politique sur le continent nous conduira entre autres en République démocratique du Congo et au Soudan et nous conclurons l'édition de notre programme avec la suite de la présentation du rapport de synthèse de la première session du synode sur la synodalité. Ce sera tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition que nous émettons depuis la cité du Vatican.
À Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Le pape François, toujours hospitalisé à la polyclinique Gemelli de Rome, a passé une nuit tranquille et s'est reposé. C'est ce qu'a écrit dans la matinée du dimanche 23 février la salle de presse du Saint-Siège sur son compte Telegram. Samedi soir, la salle de presse du Saint-Siège avait publié la mise à jour suivante. L'état du Saint-Père continue d'être critique. Et donc, comme expliqué samedi, le pape n'est pas hors de danger. Dans la matinée du dimanche, le Saint-Père a présenté une crise respiratoire asthmatique prolongée qui a également nécessité l'application d'oxygène à haut débit, a révélé la salle de presse du Saint-Siège. En raison donc de l'hospitalisation du pape, les rendez-vous du dimanche 23 février ont suivi le format de la semaine dernière. La messe de clôture du jubilé des diacres a été plutôt présidée par Monseigneur Rino Fisichella, pro-préfet du dicastère pour l'évangélisation. À cette occasion, le pape François a invité les milliers de diacres à exercer leur ministère dans la gratuité. Une invitation lancée dans son homélie lue par Monseigneur Fisichella. Au cours de la messe célébrée dimanche dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le pro-préfet du dicastère pour l'évangélisation, délégué par François en raison de son état de santé, a ordonné également 23 diacres venant des quatre coins du monde. Plus de détails avec Delphine Allaire.
C'est une messe d'ordination diaconale très fervente, priante et recueillie qui s'est tenue sous la coupole étoilée de la basilique Saint-Pierre. 23 nouveaux diacres des quatre coins du monde ont été ordonnés par le délégué du pape à cette messe, Monseigneur Fisichella, qui a lu les mots écrits par François pour l'occasion. L'évêque de Rome insiste en particulier sur trois d'entre eux, essentiels aux diacres, le pardon, le service désintéressé et la communion dans une démarche gratuite. Dans un monde où la haine prédomine, pardonner signifie, selon François, préparer l'avenir, une maison sûre et accueillante. Aimez vos ennemis, enseigne l'évangile du jour, prodiguant un autre conseil, celui de faire le bien sans rien espérer en retour. Le pape estime que le diacre devient par là sculpteur et peintre du visage miséricordieux du Père. Accompagnez votre mission avec le sourire, sans plainte ni quête de reconnaissance, les enjoint l'évêque de Rome, avant d'en venir à la gratuité comme source de communion. Donnez sans rien demander en retour, unis, créez des liens, parce que cela exprime et nourrit une communauté qui n'a d'autre fin que le don de soi et le bien des personnes. Et l'on abandonne ainsi notre parure terrestre pour revêtir la céleste.
Merci Delphine. Le souverain pontife a partagé comme la semaine dernière son exhortation qui accompagne habituellement la prière mariale de l'Angélus, s'adressant particulièrement aux diacres qui ont conclu la célébration de leur jubilé dimanche 23 février. Le Saint-Père les a invités à être le signe d'un amour qui accueille et engendre un monde fraternel. En outre, le pape François a affirmé qu'il poursuit avec confiance son hospitalisation à la polyclinique Gemelli en suivant les traitements nécessaires. Il a également remercié tous ceux qui continuent de prier pour lui et le soutenir en ces temps difficiles. L'évêque de Rome a par ailleurs réitéré ses appels à la paix dans les pays éprouvés par la guerre, notamment l'Ukraine dont il a rappelé le 3e anniversaire de la guerre à grande échelle, et a invité les fidèles à prier pour le don de la paix en Palestine, en Israël et dans tout le Moyen-Orient, en Birmanie, au Kivu et au Soudan. Place à présent à la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Parole à Fabrice Baguendekere.
Merci Christian. Dans un message adressé au pape François et diffusé mercredi 19 février, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, CHEAM, offre ses prières et formule ses vœux pour le rétablissement du Saint-Père, actuellement hospitalisé dans la polyclinique Agostino Gemelli de Rome. L'Église en Afrique et dans les îles a suivi avec une profonde attention et une prière fervente les jours d'hospitalisation de votre sainteté à la polyclinique universitaire Agostino Gemelli à Rome, écrit le CHEAM dans la missive signée par son président, le cardinal Fridolin Ambongo, affirmant au nom de l'Église d'Afrique sa solidarité et sa proximité spirituelle avec le Saint-Père. Nous prions ardemment pour un rétablissement rapide et complet de votre sainteté, termine le CHEAM. Le CHEAM qui a aussi lancé un appel à la prière et aux jeûnes en faveur de ceux qui souffrent dans les divers conflits sur les continents. Réunis à Accra pour leur première réunion ordinaire annuelle du 11 au 14 février, les évêques ont exprimé leurs préoccupations et leur tristesse en raison des conflits persistants sur les continents, appelant les fidèles et tous les hommes de bonne volonté à se tenir ensemble dans la prière pour ceux qui souffrent et invoquer l'intervention de Dieu pour la paix et la guérison. Les prélats invitent chaque diocèse, paroisse et communauté religieuse en Afrique de s'unir dans un tridoum de prières et de jeûnes selon les coutumes locales et leurs moyens du 3 au 5 mars 2025. Le cardinal Pietro Parolin a été en visite au Burkina Faso jusque mardi 18 février, visite qui a coïncidé avec la conclusion des célébrations du 125e jubilé de l'évangélisation catholique dans le pays. Arrivé à Ouagadougou vendredi 14 février, le secrétaire d'État du Saint-Siège a eu plusieurs activités, dont des rencontres avec les autorités politiques et administratives du pays et avec les leaders religieux. Pietro Parolin a exprimé le soutien du Saint-Siège aux efforts déployés par ce pays pour rétablir la paix et le développement. Le nouveau nonce apostolique au Bénin, au Togo, a célébré sa première messe publique au Bénin jeudi. C'était en la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Arrivé au Bénin le 20 janvier, Monseigneur Ruben Dario Ruiz Mainardi a présenté ses lettres de créance au ministre béninois des Affaires étrangères le 28 janvier. La conférence épiscopale du Bénin l'accueillait officiellement à son tour le 10 février. C'est comme pour faire suite à ces premières étapes de l'installation du nouveau nonce que l'archidiocèse de Cotonou, qui abrite le siège de l'Annonciature près le Bénin et le Togo, a pris l'initiative de cette messe qu'aura rehaussée de sa présence enjouée une foule de fidèles sous les férules de Mgr Roger Ngbedi, archevêque de Cotonou, et de Mgr Antoine Gagné, son prédécesseur. En Côte d'Ivoire, l'archidiocèse de Boaké, située au centre-nord du pays, a officiellement ouvert dimanche les festivités célébrant son premier centenaire d'évangélisation. La messe inaugurale a été présidée par Mgr Jacques Asanvo Ayoua, ordinaire du lieu. Dans son homélie, Mgr Ayoua a exhorté ses diocésains à s'inspirer des premiers missionnaires afin d'imiter leur sens du sacrifice, leur patience et leur persévérance face aux épreuves. Leur foi et leur espérance témoignent, à travers les fruits tangibles de leur œuvre, que rien n'est impossible à Dieu, a-t-il affirmé.
Merci, Fabrice.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le chef de la diplomatie britannique, Davin Lamy, a appelé dimanche au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, condamnant une nouvelle fois l'avancée du mouvement M23 dans l'est du pays. La situation dans l'est de la RDC est tout à fait inacceptable. La souveraineté et l'intégrité territoriale du pays doivent être respectées, a-t-il écrit sur le réseau social X. Le Royaume-Uni avait convoqué mardi le haut-commissaire rwandais, équivalent d'un ambassadeur, appelant le Rwanda à retirer immédiatement ses troupes de la RDC. Fin janvier, il avait également menacé de réexaminer son soutien financier au Rwanda. Les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR et leurs alliés au Soudan ont signé à Nairobi une charte fondatrice d'un gouvernement parallèle, selon plusieurs sources, malgré les mises en garde sur un risque de fragmentation de ce pays ravagé par la guerre. Le conflit qui oppose les FSR à l'armée régulière soudanaise depuis près de 2 ans a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 12 millions de personnes et engendré un désastre humanitaire. La charte a été signée dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une réunion tenue à huis clos dans la capitale kényane Nairobi au terme de nombreux reports et d'une grande confusion cette semaine sur fond de tensions diplomatiques avec le Kenya. Au Nigeria, au moins 14 personnes ont été tuées samedi dans une collision frontale entre un bus et un camion-citerne dans le centre du pays, a indiqué dimanche un responsable de la sécurité routière. Le bus a percuté le camion-citerne en tentant de doubler un autre bus à la sortie du village de Kusobogi, a déclaré Kumar Tsukwan, responsable du corps fédéral de la sécurité routière dans l'état du Niger. 14 personnes sont mortes de la collision frontale, tandis que 6 autres ont été blessées et transportées à l'hôpital pour des soins médicaux, a expliqué M. Tsukwan. Le père jésuite Martin Bahati poursuit la présentation du rapport de synthèse de la première session du synode sur la synodalité. Rapport publié le 28 octobre 2023 à l'issue de ses travaux.
Mes chères sœurs et frères, nous continuons à lire le rapport de synthèse de la première session de la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques tenue à Rome du 4 au 29 octobre 2023. Nous explorons la troisième et dernière partie du rapport qui s'intitule « Tisser des liens, construire une communauté ». Aujourd'hui, nous lisons les propositions en vue d'une Église qui écoute et accompagne. Dans une première proposition, les participants au synode se posent cette question. Que devrions-nous changer pour que ceux qui se sentent exclus puissent faire l'expérience d'une Église plus accueillante? L'écoute et l'accompagnement ne sont pas seulement des initiatives individuelles, mais une forme d'agir ecclésial. Une Église synodale ne peut renoncer à être une Église qui écoute, et cet accompagnement doit se traduire par des actions concrètes. Les pères synodaux notent, dans une deuxième proposition, que l'Église ne part pas de rien. Elle dispose déjà de nombreuses institutions et structures qui accomplissent cette tâche précieuse. On peut penser au vaste réseau d'écoute et d'accompagnement des pauvres, des marginaux, des migrants et des réfugiés mis en place par les Caritas, et à bien d'autres réalités liées à la vie consacrée ou aux associations des fidèles. On doit donc renforcer leur lien avec la vie communautaire en évitant qu'elles soient perçues comme des initiatives déléguées à quelques-uns. Dans une troisième proposition, les participants au synode proposent que les personnes qui exercent le service d'écoute et d'accompagnement sous ces différentes formes reçoivent une formation adéquate en fonction du type de personnes avec lesquelles elles sont en contact et de se sentir soutenues par la communauté. En outre, les participants au synode proposent d'établir un ministère de l'écoute et de l'accompagnement fondé sur le baptême, adapté aux différents contextes. Enfin, dans la quatrième proposition, les participants au synode encouragent le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar à favoriser un discernement théologique et pastoral sur la question de la polygamie et sur l'accompagnement des personnes en union polygame qui s'approchent de la foi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici, très chers auditeurs, que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et restez branchés sur nos programmes.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seul Tu es le Dieu très saint, un feu ardent et pur. Vêtu de majesté, Seigneur, tu resplendis. Tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées sont plus élevées. Seigneur, de vérité, nous crions saint. Tu es saint, toi le Dieu tout puissant. Toi.